j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est libres pour la bordelle.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça ?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses ?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède ? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info, comme tous les jeudis, comme tous les jours de la semaine plutôt, de 19h à 20h. On est jeudi, effectivement, le 1er juillet 2010. Et donc le Canu Info ce soir est présenté par Delphine.
Bonsoir.
Et Laurent, 1er juillet 2010. Depuis aujourd'hui, tous les rues de zone 30 sont à double sens cyclable, donc peuvent être pris par les vélos en double sens. Sauf exception, et à Lyon, nous sommes à 90% d'exception. Donc la mairie empêche, d'abord va à l'encontre de l'objet de la loi, et en plus continue sa lutte acharnée contre le développement du vélo. Donc une petite dédicace à Gérard Collomb, qui ne se déplace pas en vélo, qui ne se déplace pas en transport en commun, et c'est peut-être pour ça que les vélos se développent très lentement, voire reculent ces derniers temps. On a même des disparitions de pistes cyclables il n'y a pas longtemps, notamment celle qui est sur la place Bellecour, hein, qui a disparu depuis 2 ans. Et puis, pareil, les transports en commun ne se développent pas. On les remercie.
Ils se développent, juste que ça reste extrêmement cher. Donc le problème est surtout là, sur les transports en commun.
Voilà. Et donc sur les vélos, ça recule. Merci Gérard Collomb. Donc voilà, on va commencer par l'actualité internationale. Je vais commencer par deux petits mots sur la Turquie. Alors, suite à l'arraisonnement et aux morts des convois humanitaires qui sont arrivés dans la bande de Gaza il y a un mois maintenant, c'est le 31 mai. Convois qui contenait beaucoup de militants turcs, et donc parmi les nombreux morts, il y a 9 Turcs qui ont été tués. Depuis, les relations sont un peu difficiles entre la Turquie et Israël. Il faut savoir qu'il y a des relations privilégiées, puisqu'ils font même des manœuvres militaires ensemble. Donc ça a toujours été relativement incroyable, ces liens privilégiés. Sauf que là, ça fichait un froid un petit peu. Et là, on a eu une réunion qui a été confirmée aujourd'hui, qui a eu lieu hier. Une rencontre secrète entre le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu, j'espère que je prononce pas trop mal, et puis le ministre israélien du commerce, Benjamin Ben Eliezer. Donc ils se sont rencontrés en secret. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est dit, sauf qu'ils sont en train de négocier un nouveau rapprochement. Faut savoir quand même que la Turquie officiellement demande toujours des excuses, des dommages pour les familles des victimes, une enquête internationale sur le raid israélien, la libération des 3 navires turcs saisis pendant l'opération, et aussi la fin du blocus de Gaza. Donc voilà, il faut savoir que ça fait des remous en Israël aujourd'hui, puisque le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit qu'il avait autorisé cette rencontre, sauf que tout le monde n'a pas été très content, notamment Avigdor Lieberman, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui s'est trouvé chinté sur le coup. Il faut dire que plus on chinte Lieberman, plus la paix avance, hein, on peut dire un peu ça, parce que c'est quand même un extrémiste. Donc voilà, rencontre aujourd'hui entre la Turquie et Israël pour essayer de repartir sur de basses scènes, en espérant que la Turquie gardera ses revendications, notamment la fin du blocus de Gaza, ce qui n'est pas sûr, hein, que la Turquie tienne. On va voir ce qu'elle est prête à accepter, ce qu'elle est prête à accepter comme compromission. Donc voilà. Et puis pendant ce temps, la Turquie continue de tuer, d'assassiner. Ça se passe comme d'habitude, dans une région du sud où les membres du PKK, le parti révolutionnaire autonomiste kurde, demandent que cette région à majorité kurde soit détachée de la Turquie, puisqu'actuellement ils sont occupés par les Turcs. Pas mal d'accidents ces derniers jours. Aujourd'hui, on notera des grosses attaques, avec au moins 2 soldats turcs tués, 3 membres de forces paramilitaires turques tués et 12 rebelles kurdes tués. Donc ça fait pas mal de morts, des accrochages qui ont eu lieu donc dans cette région de Sirte, près de la localité de Pervari. Donc voilà, ça continue un peu tant bien que mal. On rappelle que depuis 1984, il y aurait eu à peu près 45 000 morts, en majorité des rebelles kurdes, qui demandent toujours à pouvoir vivre et se gérer eux-mêmes sans être colonisés et occupés en permanence par les Turcs. Les Kurdes ont ce problème-là en Turquie, mais ils l'ont dans les régions autour, même s'ils ont obtenu un peu d'autonomie au Kurdistan irakien. Voilà.
Oui, alors au Liban, c'est pareil, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors on va commencer par la mauvaise. Le président libanais, Michel Sleiman, a donc annoncé mercredi qu'il signerait toute demande d'arrêt de mort, de condamnation à mort, de tout agent travaillant pour le compte d'Israël. On vous rappelle qu'au Liban, être un espion à la solde d'Israël est extrêmement puni, hein, c'est très sévère. Jusque pour qu'il y ait une condamnation à mort, il faut que le président fasse une petite signature très précise. Et donc là, il a dit qu'il faisait particulièrement confiance au tribunal militaire. Donc, quoi que fasse le tribunal militaire, il signera un arrêt de condamnation à mort.
Donc il validera la condamnation à mort.
Oui, exactement, en faisant toute confiance aux militaires, hein. C'est toujours intéressant quand un civil, en tout cas dans son mandat, fait toute confiance à des militaires. Il faut dire que ces derniers temps, il y a eu quelques affaires. Alors, c'est Israël qui a arrêté personnes qui auraient donné des informations au Hezbollah. Entre-temps, le Liban a aussi arrêté un espion à la solde d'Israël, donc c'est un peu la guéguerre, hein, la vengeance, nous en prend un, nous on t'en prend un aussi. En tout cas, dans les déclarations médiatiques, c'est assez ça. Donc voilà, c'est pas une très bonne nouvelle. Par contre, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que la bourgeoisie au Liban est attaquée. Si, si, si. Et hein, c'est un paquet de hauts responsables, puisque ça date un petit peu déjà du milieu du mois de juin. J'ai lu ça dans L'Orient le Jour, un des quotidiens libanais. Plusieurs hauts responsables se retrouvent un peu acculés pour non-paiement de factures d'électricité. Alors au Liban, l'électricité, c'est un gros problème. Hein. Il y a certaines régions où les coupures sont extrêmement importantes. Bah,
grosso modo, ça marche jusqu'à 18h et après, plus vraiment.
Ouais, et puis il y a des régions où ça coupe en pleine journée. C'est un gros souci. Toujours est-il qu'il y a 200 personnes riches, dont 100 hauts responsables politiques qui ne paieraient pas leur facture d'électricité, et ça se monte à peu près à 6,7 millions d'euros le cumul des factures impayées. Et c'est l'État, hein, c'est très sérieux, puisque c'est un ministre qui tape du poing sur la table et demande à ce que ces factures soient enfin payées. L'idée, elle, évidemment, de s'en prendre au symbole au niveau des riches, puisqu'ils sont, c'est pas les seuls, hein, évidemment, à pas payer leurs factures, mais l'électricité, évidemment, étant assez aléatoire, certains estiment qu'ils n'ont peut-être pas à la payer, ou en tout cas que c'est peut-être gratuit. On a eu ce problème avec l'eau en France, hein, il y a 20 ou 30 ans. Toujours est-il que c'est une action qui risque de pas résoudre effectivement le problème de base, qui est le déficit de la production, des tarifs qui sont a priori inférieurs au coût de production, et puis beaucoup de violences qui sont faites sur les percepteurs qui se rendent dans certaines régions pour réclamer le dû donc du paiement en électricité. Mais c'est plutôt bon signe qu'un État décide de s'en prendre à ses hauts fonctionnaires pour donner l'exemple.
Je vais parler un peu de peine de mort, parce qu'on n'a pas fait de point peine de mort ces dernières semaines. On va faire un petit point donc chez nos amis les barbares. On va commencer avec la République islamique de Mauritanie. On a appris il y a quelques jours qu'il y avait eu 7 condamnations en un seul jour. C'était le mercredi de la semaine dernière. Donc la cour criminelle de Nouakchott c'est la capitale, donc ils ont condamné à mort 7 personnes dont 6 étrangers, alors pour différentes affaires, voilà, ça a été très très vite. Il faut savoir que si on regarde juste le mois de juin, c'est 13 personnes condamnées à mort en Mauritanie. Ça rigole pas ces derniers temps en Mauritanie avec la peine de mort. Il faut savoir que depuis 87, aucune exécution a eu lieu. Donc pour l'instant, les condamnés à mort sont plutôt condamnés à la perpétuité. Mais là, vu le nombre de condamnations, ça risque de changer. Autre pays, autre barbare, les États-Unis, avec une bonne nouvelle d'abord, c'est Troy Davis, qui est donc dans le couloir de la mort, qui attend son exécution depuis 1991. Il va avoir une rare chance, puisqu'il va avoir le droit d'exprimer son innocence devant un juge fédéral. Donc 19 ans après sa condamnation, donc il a fait appel. La Cour suprême des États-Unis a pris cette décision totalement inhabituelle l'année dernière, en autorisant Davis à présenter des nouveaux éléments qui prouveraient son innocence. Il faut dire que il a été condamné à mort pour avoir tué quelqu'un, et que les témoignages sont aujourd'hui beaucoup moins sûrs qu'ils l'étaient à l'époque. Notamment, il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu un autre homme tirer, alors qu'il n'a pas vu Davis tirer ce jour-là. Voilà, il y a plein de nouveaux éléments qui font que c'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être qu'il va faire que 19 ans ou 20 ans de prison et qu'il va pouvoir sortir sans passer par la chaise électrique, l'injection mortelle ou le peloton d'exécution, puisque le retour du peloton d'exécution est venu. C'était le 18 juin dernier. C'est Ronnie Lee Gardner qui a été exécuté. Donc il avait 49 ans, il était devant 5 hommes masqués armés de carabines qui lui ont donc tiré dessus. Premier condamné à mort à mourir de cette façon-là aux États-Unis ces 14 dernières années. Autre pays, autre barbare, l'Égypte. Et oui, on a souvent l'image de l'Égypte avec les pyramides, tout ça, un pays un peu touristique, sympa, mais pas du tout. C'est un pays barbare. Donc c'est un tribunal égyptien qui a condamné avant-hier donc un militant islamiste à mort. Donc voilà. Alors la peine de mort n'est pas définitive puisque au-dessus de cette condamnation civile, il y a un chef religieux du pays, le chef religieux du pays, qui doit valider ou pas la condamnation. Donc ça, on le saura le 22 octobre. Parlons un peu de l'Arabie avec deux condamnations à mort dans deux affaires différentes et deux exécutions qui s'en suivent, un yéménite et un saoudien. Donc c'était la semaine dernière, ont été tous les deux décapités et en plus un des deux avait été jugé pour un meurtre particulièrement horrible, donc ils ont décidé d'aller plus loin que la décapitation. Une fois qu'ils l'ont coupé la tête, ils l'ont crucifié. Pour donner l'exemple, en place publique, voilà, depuis le début de l'année, 15 décapitations, puisque c'est comme ça qu'on assassine, que l'État d'Arabie Saoudite assassine ses condamnés. En 2009, il y avait eu 67 exécutions. Et puis pour terminer dans ce petit panorama des barbares, l'Iran. Donc là, c'est un chef rebelle sunnite, Jundala, qui est accusé alors de faire partie d'une rébellion et en plus donc d'avoir, au nom de cette rébellion, mené de nombreuses actions armées. Donc il avait été condamné à mort et là il a été pendu. Donc voilà, je crois que en plus de ses participations à ce mouvement rebelle, il est accusé aussi d'avoir renseigné les services de renseignement étrangers, notamment américains et sionistes, d'après la déclaration de l'Iran. Donc ça, c'est sûr que ça entraîne automatiquement la peine de mort.
Alors il y a des gens qui ont des idées pour réagir contre le fascisme dans le monde, et en particulier contre le fascisme d'État. C'est à Saint-Pétersbourg, en pleine nuit, sur un pont-levis, vous savez ces ponts qui se redressent, est apparu un phallus géant. Un truc énorme de 65 mètres sur 27 mètres qui avait été dessiné au sol par un collectif qui s'appelle Voina. C'est un collectif qui est spécialisé dans l'art de rue. Alors mesdames et mesdemoiselles, vous allez me dire oh, pourquoi encore utiliser un phallus? Bon, alors il faut voir ça en fait comme un doigt d'honneur, puisque le pont-levis se levant, le phallus apparaissait et se retrouvait juste sous les fenêtres du bâtiment du FSB. Le FSB, c'est le Service Fédéral de Sécurité, l'ex-KGB, donc il s'agissait vraiment d'un doigt d'honneur. Alors pour un peu vous mettre, c'est une quarantaine d'artistes qui se sont précipités et qui en moins d'une minute ont dessiné ce phallus au sol. Il y en a un seul qui a été arrêté, et c'est en l'occurrence un des plus connus en particulier sur internet. Il s'appelle Nikolaev alias Chokniti, ça veut dire le trinqueur, vous m'excusez pour mon russe. Il est assez connu puisqu'il fait souvent des performances où il s'en prend aux apparatchiks, hein, à cette bourgeoisie russe, et en particulier à ces nouveaux riches. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'il y a bientôt des nouvelles lois sur la sécurité intérieure qui vont apparaître, et le FSB va obtenir de nouveaux pouvoirs, et en particulier il sera habilité à arrêter et détenir pendant 15 jours à titre préventif des citoyens soupçonnés de vouloir atteindre la sécurité de l'État. Donc c'est un geste qui est intéressant puisqu'il a été visible de partout, et puis bon, évidemment ça change un petit peu des actions commando de certains. Donc on peut en rire, surtout que je vous laisse aller voir, donc vous cherchez Voina, V-O-I-N-A sur internet pour aller voir les fameuses photos. Il y a même une vidéo où on voit le joli pont avec le phallus se lever, c'est très chouette.
Saint-Pétersbourg qui a été le cadre d'une tentative de gay pride, lesbian and gay pride, et tentative puisque entre le fascisme d'État et les petits nazillons ou les petits fascistes, c'était difficile, et donc ils ont tenté de faire des bouts de manifestation. Il y a quand même eu quelques arrestations, donc voilà, c'est pas gagné dans ce pays. Oui, puisque très totalitaire encore.
Les gay prides sont interdits, hein, autant à Moscou comme à Saint-Pétersbourg, et ça n'est. Donc ils ont essayé de s'organiser en faisant des petits groupes de 10 pour essayer justement d'éviter les groupes de fachos sur place et puis la police. Et ils avaient repoussé plusieurs fois le rendez-vous qu'ils n'ont pas arrêté de changer. Ils ont donné plein d'intox comme ça pour essayer cacher le lieu de rendez-vous. Bon, finalement, ça s'est pas passé exactement comme ils le voulaient, mais ils ont réussi quand même à attirer un petit peu l'attention des touristes puisqu'ils ont fait ça par petits groupes avec le drapeau arc-en-ciel sur leur tenue pour essayer un petit peu de montrer au moins aux touristes étrangers ce qui est en train de se passer en Russie au niveau de l'homophobie, qui est quand même extrêmement importante. Alors, j'ai d'autres infos au niveau international qui concernent la lutte contre le sexisme. Deux infos extrêmement différentes. Alors, une qui est assez intéressante puisque c'est la ville de Berne qui s'est dotée d'une terminologie non sexiste. Alors, qu'est-ce donc ? Eh ben, en fait, on a appris ça donc dans le courrier de Genève. Enfin, moi, j'ai appris ça dans le courrier de Genève, en tout cas. Donc, au nom de l'égalité homme-femme, le langage doit suivre. Donc, par exemple, l'exemple qui est cité, c'est qu'on dit plus un passage piéton, on dit un passage zébré, ce qui veut dire qu'aujourd'hui tous les mots qui contiennent une masculinisation très très forte doivent être retirés. Alors, ou alors il faut employer les doublons, c'est-à-dire les ambassadeurs et les ambassadrices.
Passage piéton-piétonne.
Voilà. Il faudrait exactement doubler sinon la terminologie. Et alors sinon, il est recommandé d'utiliser le I majuscule, ce qui revient à utiliser notre E majuscule dans certains tracts militants que vous pouvez voir. C'est-à-dire ce E qui va féminiser votre mot. Et donc c'est très intéressant de voir une collectivité publique mettre en place ce système, puisqu'il y a un guide de formulation non sexiste de la ville de Berne. Tout ça est extrêmement sérieux, extrêmement important. Je vous laisse aller voir ça sur le site de la ville de Berne. Alors ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas qu'à Berne que ça se fait. Ce qui est très compliqué, c'est que suivant les langues, hein, vous savez que c'est un pays
à trois langues,
avec plein de langues, et la France, et il y a l'italien aussi, hein, qui aussi a ce vocabulaire et cette grammaire assez intéressante. Alors, c'est intéressant d'avoir aussi ce côté masculin-féminin dans la langue française, puisqu'il permet, à l'inverse de l'anglais, par exemple, de définir précisément aussi du féminin, mais à l'inverse, du coup, quand il y a une généralité, tout devient masculin, ce qui est très embêtant. Et donc, c'est avec le français, par exemple, qu'ils ont le plus de mal, où ils appellent donc à utiliser les doublons. Du coup, forcément, ça rallonge un peu les discours, mais en tout cas, c'est une initiative qui est intéressante. Et alors, une initiative extrêmement différente. On part en Arabie Saoudite, où des femmes ont décidé d'utiliser une fatwa assez controversée à leur avantage, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de la retourner. Alors en fait, c'est encore une fatwa complètement débile, hein, évidemment, et extrêmement sexiste, qui a été édictée par Cheikh Abdul Mohsen bin Nasser Al-Obekan, qu'on va appeler Al-Obekan pour faire court, qui dit que, en fait, pour qu'un homme puisse être accepté dans une maison sans souci, et donc fréquenter hommes et femmes comme s'il était de la famille, il doit boire le lait du sein maternel. Oui, tu me fais une drôle de tête, exactement, j'imagine que chez vous aussi. Donc ces femmes ont lancé une campagne en disant « Laissez-nous conduire, nous donnons le sein à tous les chauffeurs étrangers ». Ce qu'elles veulent en fait, c'est montrer effectivement l'absurdité déjà d'une première loi, elles n'ont pas le droit de conduire leur propre véhicule, le nombre de fatwas complètement débiles qui sortent un petit peu tous les ans dans leur pays, et en particulier celle-ci, qui donc on pourrait les têter pour d'un seul coup les admettre dans la famille au sein de n'importe quel autre membre. Comme fils, frère, hein, voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Donc, comme elles veulent absolument pouvoir conduire, elles disent, ben, du coup, elles vont se mettre à têter la personne qui va conduire la voiture qu'elles-mêmes voudraient conduire. Donc, elles ont mis ça en place. Ça commence quand même un petit peu à faire un effet sur place. D'autant qu'elles ont quand même des arguments intéressants, comme de dire, donc, la religion islamiste me laisserait donner le sein à un étranger, mais par contre, elle m'interdit de conduire la voiture. Donc, elles imaginent plein de scènes, hein, extrêmement décrites, en disant donc mon mari rentre à la maison, ou mon fils, hein, parce qu'on vous rappelle que l'homme, de toute façon, a toujours la priorité sur la femme et sur la mère. Il rentre à la maison et donc il y a un inconnu dans le salon et je suis donc en train de le laisser me téter le sein. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il se met à lui planter des coups de couteau dedans, ou est-ce que d'un seul coup il va soutenir qu'il y a une fatwa? Alors voilà, c'est intéressant puisque ça met un joyeux bazar dans tout ce système, hein, puisque comme tu le disais, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays très démocratique, en tout cas, ni pour les femmes, ni pour les condamnés.
Il n'est ni démocratique, ni égalitaire. Et... Voilà pour la partie internationale, on va parler un petit peu de la France. Ah ben, on parlait de totalitaire, ah ben, on a une élection ce qui semble qui est le syndicat le plus influent en France aujourd'hui, c'est pas la CGT, c'est pas la CFDT, hein, le syndicat le plus influent, ça reste le MEDEF, le plus gros syndicat de patrons. Donc il y a eu une élection à la soviétique, on va dire, hein, puisque Laurence Parisot s'est présentée, ou à la nord-coréenne, ou enfin, je sais pas, on peut trouver d'autres exemples, ou à la marocaine, enfin je sais pas, mais en tout cas elle s'est présentée toute seule. Donc elle a été élue à 93,85% des suffrages, les autres ayant voté blanc, puisqu'ils ne pouvaient pas voter pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est beau la démocratie. Vous allez me dire, on ne voit pas pourquoi le MEDEF sera un parti démocratique, alors qu'il n'y a aucune démocratie dans une entreprise, hein, puisque c'est un système totalitaire par excellence, hein, dans l'entreprise, le patron décidant et imposant ses choix aux salariés. Il y a effectivement, ce serait illogique presque, que le syndicat des patrons fonctionne sur un mode démocratique alors que les entreprises sont des mondes totalitaires. Donc effectivement, les entreprises traditionnelles, je ne parle pas des SCOP ou des entreprises ou détenues par par les travailleurs, parce que c'est quand même assez rare, hein, pas à signaler.
Ouais, et puis en fait tout le monde dit que c'est quand même qu'une façade de tout ça, il y a une espèce d'alliance qui s'est quand même fait, un consensus pour qu'elle soit élue. C'est une façade, tout le monde se demande un petit peu, en particulier dans la presse économique, hein, combien de temps cette façade va pouvoir tenir au sein du MEDEF. Tout le monde se pose un petit peu plein de questions. Puis par exemple, Challenge, il se pose la question de savoir... Et au fait, Laurence, elle a un programme? Et la réponse semble non, elle n'a pas de programme. D'où le consensus de façade. Et tout ça va bien finir par se casser la gueule. En tout cas, on attend vivement les guéguerres au sein du MEDEF.
Non, mais c'est pas s'il n'y a pas de guéguerres.
Mais si, on les attend.
Il a failli y avoir d'autres candidats, mais failli... un truc qui nous a échappé la semaine dernière, donc on va le faire, faire cette info avec un peu de retard, parce que c'était paru dans le Progrès, je crois, le jour de la manif, donc le 24 jeudi dernier, le 24 juin, et on apprend que le rectorat de Lyon va manquer de bras pour la rentrée, notamment de profs, et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? De rappeler les retraités. Donc ils proposent aux retraités de l'académie, c'est-à-dire un Rhône-Loire, de remettre le couvert avec des heures de vacation payées 34,30 € brut de l'heure, cumulables avec la pension de retraite, donc c'est des heures en plus. Donc il leur propose comme ça de venir combler les manques de l'État, hein, puisque c'est l'État qui supprime 16 000 postes de profs par an. Ça commence à se voir, ça commence à faire des trous dans le système, donc on met des pansements, et on a trouvé comme pansement, c'était pas mal de prendre les vieux. Comme ils n'ont pas toujours des grosses pensions, mais en plus on leur permet de gagner un peu plus. Donc c'est une première pour l'Académie, tout ça.
Oui, alors on a un nouveau rapport de la Cour des comptes, un très beau rapport encore, concernant le passeport dit biométrique. Hein, mais le passeport finalement électro-machin, biométrique, tout ça, vous savez, ou bientôt il parlera tout seul, puisque selon la Cour des comptes, donc c'est un rapport qui a été dévoilé hier, chaque passeport coûte 55 € à fabriquer, alors que si vous avez fait faire un passeport ces derniers temps, vous devez vous acquitter d'un timbre fiscal de 89 €. Alors, il n'y a pas une petite différence de 34 € dans tout ça, quand même?
Ils font du bénéf.
Il y a du bénéf. Non, du bénéf, quand même, c'est pas mal. Alors, il faut savoir que la France est un des pays où ce passeport est le plus cher. Alors, l'État a répondu à la Cour des comptes, il faut le savoir. Le ministère de l'Intérieur a répondu aujourd'hui que le coût moyen, en fait, c'est 68 €, que la Cour des comptes, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est toujours sympa pour la Cour des comptes. Hein. On vous rappelle qu'elle est quand même là pour appeler à l'ordre le fonctionnement du gouvernement et de l'État, et qu'en fait, donc, il déclare, le ministère de l'Intérieur, qu'il n'y a pas de grosse marge bénéficiaire. Bon, il y a quand même une marge bénéficiaire, nous on sait compter. Alors, avant l'entrée en vigueur de ce fameux passeport, en juin 2009, un passeport, ça coûtait 38 €, hein, donc vous voyez, il y a quand même un petit peu de l'inflation. Christine Lagarde, en 2008, elle avait justifié le prix en expliquant que bon, il y avait quand même du matériel à mettre en place, qu'il y avait des équipements dans les mairies, hein, mairies, on vous rappelle qu'ils sont beaucoup plaintes de l'installation de ce système, qu'il y avait des stations d'enregistrement nouvelles, tout ça. Toujours est-il qu'il y a une sénatrice PS, Michèle André, membre de la commission des finances, qui s'était un petit peu agacée et qui avait alors commandé ce rapport, la Cour des comptes, rapport que nous avons donc aujourd'hui, pour vérifier si tout ça c'était vrai, et la Cour des comptes a l'air de dire que tout ça c'est pas vrai. Donc la Cour des comptes fait un calcul en disant que rapidement le coût devrait baisser pour atteindre autour de 40-47 €. Donc on en est quand même loin avec les 89 € actuels. Et puis ce qui est drôle, c'est que le ministère de l'Intérieur lui se défend en disant vous savez, c'est moins cher pour les enfants. Super, donc ça veut dire que vous, adultes, vous payez pour les enfants. Bon, la solidarité, moi je veux bien, mais ce qui est très drôle surtout, c'est qu'il nous explique qu'il y a un surcoût sur le passeport, mais comme ça, c'est bien parce que la carte d'identité électronique, eh ben, ça va servir à la financer. Donc vous payez le produit A pour payer le produit B que vous n'allez peut-être jamais acheter. C'est intéressant quand même parce que je vous rappelle que c'est l'État public, hein, on n'est pas dans une multinationale qui essaie de vous escroquer. Non, c'est bien l'État qui vous escroque en vous en payant 89 €. Un bidule qui est quand même un gros truc. Vous avez tout ce qu'il y a de bien fasciste dedans, quoi.
Mais vous n'avez pas le choix.
Eh ben non, c'est comme ça maintenant, il n'y a plus aucun moyen de passer outre.
Est-ce que tu as des infos sur la France encore?
Oh oui, j'en ai quelques-unes. Alors, il y a une nouvelle plage à Douarnenez, j'arrive jamais à le dire, vous m'excuserez, qui a été fermée aujourd'hui et qui le sera jusqu'à demain. C'est la nouvelle consigne de la collectivité sur place qui a décidé à chaque fois qu'il y avait un dépôt massif d'algues vertes de fermer pendant 2 jours. Donc c'est un nouvel arrêté municipal, hein. Donc qui interdit la plage sur plus de 3 km de long. Vous savez, c'est des régions qui sont constamment infestées par ces algues extrêmement toxiques, hein, qui sont accusées de tuer des gens, et en tout cas accusées de tout pourrir autour d'eux. C'est quand même 70 000 tonnes d'algues qui sont ramassées chaque année, et on a une tendance à dire que quand même, parfois, les cochons qu'on mange, ils sont un peu responsables aussi de cette pollution.
Bah c'est ça, c'est les cochons élevés en Bretagne qui sont responsables de ces algues.
Et alors donc moi j'ai appris dans le Canard Enchaîné cette semaine, que je vous laisserai lire l'article en entier qui s'appelle Groink Groink, que donc par là-bas, Marc Le Fur a accepté, donc voté, fait monter en fait dans sa petite son petit coin de paradis le seuil du nombre de cochons acceptables, qui était de 450 à 2000. Hein, 2000, c'est en fait le nombre accepté par l'Europe. Et donc, il est parti du principe que ben, puisque l'Europe autorisait d'aller jusqu'à 2000, eh ben, allons-y gaiement, quoi. Alors, c'est quand même bizarre de voir que dans certaines communes, comme ça, on prend tout l'inverse de ce qui est recommandé de partout, c'est-à-dire de baisser et de réguler la production porcine, en particulier en Bretagne, pour augmenter carrément la capacité des éleveurs et donc créer toujours un peu plus de pollution. Parce que je vous rappelle que l'élevage de cochons, hein, de porc, c'est pas juste qu'un problème d'algues vertes sur les plages, mais que c'est bien plus important.
Voilà, on peut vivre sans manger de porc. On confirme.
Oui, tout à fait, on confirme.
Voilà, alors que c'est sûrement la viande la plus consommée aujourd'hui, puisque les gens mangent du porc à toutes les sauces, avec de manière indirecte, hein, les lardons, le jambon, tous les trucs comme ça.
Oui, la gélatine, hein, voilà, tout est à base de cochon. Mais alors, il n'y a pas que là où, en fait, tout semble quand même un petit peu pas clair quand même, hein. Là, il y a des choses au ministère qui sont des fois pas très claires. Alors, ça y est, c'est fait, on va avoir une nouvelle boue d'autoroute entre Toulouse et Castres. Notre ami ministre de l'Environnement et de l'Autoroute, Jean-Louis Borloo, a donc validé la construction de cette nouvelle portion d'autoroute qui va permettre de baisser le trajet de 15 minutes, rendez-vous compte. Quel bonheur, 15 minutes en moins entre les deux villes. Le coût de l'opération s'est quand même un peu estimé à 330 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal, hein, avec une mise en service en 2015. Évidemment, le ministre, il a donné son feu vert pour une mise en concession autoroutière. Ça signifie quoi ? Que tout ça, ça va être donné à un opérateur privé, et la construction et l'exploitation seront donc confiés à un opérateur privé. Les automobilistes devront donc aussi s'inquiéter d'un petit péage qui est pour l'instant pressenti autour de 6,73 € l'aller, hein, pas l'aller-retour. Alors pour l'instant, il y a 1,30 € pour le Toulouse-Albi, par exemple, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que on sait que les autoroutes, quand M. Sarkozy est arrivé, il a vendu, hein, toutes les concessions autoroutes alors qu'elles étaient en train de devenir bénéficiaires. Et là donc, alors que ça a été beaucoup critiqué, on continue, c'est-à-dire qu'on continue à donner finalement toute l'exploitation de ces autoroutes à des organismes privés, à des multinationales du BTP, hein, la plupart du temps. Donc on a toujours un petit peu ce truc qui se mord la queue, puisque par exemple, on apprend encore dans le Canard enchaîné de cette semaine que depuis 2005, les tarifs des péages ont augmenté et que ils ont augmenté là où c'est le plus fréquenté. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un rapport plus ou moins lointain entre le coût de construction et d'entretien de l'autoroute avec le coût du péage, et donc plus l'autoroute vieillissait, plus elle était rentabilisée, et plus le péage y baissait. Et ben, les chiffres montrent que c'est tout l'inverse. Plus il y a de monde, comme sur l'autoroute du Soleil, et plus les péages sont chers. Et voilà, ça c'est quoi ? Parce que c'est géré par, évidemment, des entreprises privées et capitalistes qui s'en mettent plein les poches. Donc voilà, encore une fois, on ne comprend pas bien comment est géré notre État, et après on nous dit qu'il manque des sous dans la caisse.
Oui, et surtout ça doit faire 1 ou 2 milliards de bénéfices pour les sociétés d'autoroutes. C'est donc, si c'était resté dans le domaine public, c'est 1 ou 2 milliards, ça serait dans la caisse de l'État. Et justement,
Juste pour dire, hein, les autoroutes, nous on n'est pas bien pour, hein, on vous rappelle qu'en général ça cache tout. Oui. Il y a des gens qui vivent à côté et que c'est quand
justement,
même
on va en parler, puisque on a parmi les gros escrocs, les gros menteurs du gouvernement, avec Sarkozy et Jean-Louis Borloo, deux concurrents sérieux, puisque tous les deux, lors du vote sur le Grenelle 1 de l'environnement, qui était présenté comme une rupture de la société, on passait dans un monde où on allait protéger l'environnement, et dans ce Grenelle 1, il y avait l'idée qu'on arrêtait la construction d'autoroutes, puisque c'est destructeur d'environnement, ça augmente la pollution, ça augmente le trafic automobile, donc ça augmente la pollution. Donc voilà. Sauf que c'était un mensonge, hein, mais ça ils en font plein, puisque par exemple, là tu disais que Borloo avait autorisé l'autoroute Castres-Toulouse, mais il en a autorisé deux autres nouvelles, la 9 bis à Montpellier, et puis de la concession et la transformation de la RN154 entre Orléans et Dreux. Donc voilà, c'est vraiment montrer que le Grenelle de l'environnement 1 était vraiment une escroquerie. Le Grenelle de l'environnement 2, on rappelle que c'est un truc anti-environnemental. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, on avait déjà bien compris. On développe des autoroutes, on saccage l'environnement. Au nom de la protection de l'environnement, c'est quand même pas mal. Et puis, je parlais des OGM, puisqu'il y a un nouvel OGM qui est pressenti pour arriver dans nos assiettes. C'est un saumon génétiquement modifié. C'est les Américains qui l'ont mis au point. Actuellement, pour qu'un saumon soit mangeable, il faut 3 ans. Pour qu'ils grandissent et qu'ils soient consommés. En intégrant dans le matériel génétique du saumon un gène de l'anguille, les Américains sont arrivés à obtenir un saumon qui grandit en 18 mois. Donc, gain énorme, pas pour le saumon, ni pour les papilles, puisqu'en fait, on sait que quand on force la maturation, qu'on accélère, la viande est forcément moins bonne. Hein, puisqu'elle a moins le temps de prendre des choses, enfin voilà. Mais par contre, c'est très appréciable pour les éleveurs. Et c'est l'idée, c'est de développer ce saumon qui serait théoriquement stérile. Et donc, s'il est théoriquement stérile, ça supprimerait les risques de contamination. Sauf que dans la réalité, faire des saumons qui soient 100% stériles, c'est pas sûr que ça existe. Il suffit qu'il y en ait un qui s'échappe de la ferme pour saccager et détruire et prendre la place de saumons naturels présents dans les eaux de la planète. Donc voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors pour l'instant, c'est pas autorisé, mais c'est en négociation.
Alors, peut-être que certains d'entre vous, adorateurs du Nutella, avaient pris peur.
Ouais, parce que on a failli avoir une grosse mention dessus. Attention, produit dangereux.
Bon, pour la santé.
On le savait déjà.
Alors en fait, bon, c'est, je vais vous raconter ça parce qu'en fait, on va parler de l'obésité juste derrière, mais en fait, c'est une rumeur qui s'est propagée avec, on va dire, une série de. On pourrait dire des malentendus, mais c'est plutôt de la propagande d'un côté comme de l'autre. Le 16 juin dernier, les eurodéputés, ils ont adopté un projet de censé harmoniser, alors avec l'Europe, on sait ce que veut dire le mot harmoniser, et renforcer les règles d'étiquetage des produits alimentaires. À la base, il devait y avoir une espèce de système avec des feux tricolores. Quand c'était rouge, c'est que c'était très mauvais. Finalement, c'est pas passé. Le Nutella aurait eu ce petit côté rouge, effectivement. Donc, au moins, maintenant, il devrait y avoir une mise en évidence de la composition et de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires de grande consommation. Et même les campagnes publicitaires devraient aussi annoncer un certain nombre de choses. Il faut savoir que Paolo Fulci, le vice-président de Ferrero, hein, c'est la maison mère de Nutella, c'est lui qui au début s'est mis hurler dans tous les coins sur l'Europe que franchement c'était pas bien, tout ça. Il faut dire que ensuite l'affaire elle a été reprise par un député de la Ligue du Nord, hein, vous savez c'est ce mouvement populiste plutôt proche de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord qui est dans le coin, la région, la patrie on va dire de Ferrero, ils ont même créé un comité de soutien, touche pas mon Nutella, comme quoi des fois les gens savent s'organiser pour des trucs absolument sans intérêt, hein. Ensuite la presse italienne s'est emparée de l'affaire, tout ça c'était une affaire nationale, on touche pas au Nutella, et pourtant dès le 21 juin le groupe Ferrero avait sur son site internet fait dans un communiqué tout de suite un rappel à l'ordre disant oulala il faut pas s'exciter, il y a pas de souci, tout va bien, on n'est pas contre l'Europe, faut pas vous emballer. Alors tout ça pour vous dire que la fameuse huile végétale qui est dans le Nutella,
qui est le premier ingrédient, c'est-à-dire que
c'est le sucre, je crois le premier.
Non, je crois que c'est l'huile.
Ah, je sais plus. Enfin, bon, toujours est-il que c'est kiff kiff et c'est kiff kiff.
C'est pas le chocolat ni la noisette, hein.
Et le chocolat, il y en a pas. Hein. C'est du cacao maigre en poudre et c'est la noisette qui est juste un petit peu avant. Mais c'est surtout l'huile végétale et qui est en fait l'huile de palme et c'est ça qui devrait maintenant, c'est ça que les associations demandent à ce qu'il soit indiqué. C'est cette fameuse huile de palme qui est une huile de palme mauvaise pour la santé, qui en plus de ça détruit tout là où elle est ramassée parce que c'est défriché, tous les sols sont ravagés. C'est vraiment une cochonnerie l'huile de palme.
Que notamment, ça fait partie de la déforestation en Indonésie et
exactement,
que ça tue l'habitat de certains singes rares. Donc voilà, effectivement, c'est très destructeur de l'environnement, l'huile de palme.
Donc, vous qui aimez le Nutella, donc, il devrait y avoir d'autres informations sur ces produits grâce à l'Europe, mais il faut savoir qu'en France le CSA a remis un super rapport à Madame Roselyne Bachelot, hein, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a remis la semaine dernière son rapport sur l'application de la fameuse charte alimentaire signée l'année dernière en 2009 et destinée à prévenir l'obésité infantile à la télévision. Alors vous savez, c'est ces petits messages qui passent lorsqu'il y a une publicité sur de la bouffe.
Même quand la bouffe est c'est un truc clean ou qui fait pas grossir, ils sont dans l'obligation de mettre ces messages.
Voilà, ouais, alors c'est ça, et donc le message peut varier, hein, y a plusieurs choix. Alors ce qui est intéressant dans ce rapport de 78 pages, avec plein de pages blanches à l'intérieur, je sais pas à quoi ils jouent, c'est ça, peut-être qu'ils se sont gourés, je sais pas, c'est tout bizarre, c'est que déjà il faut bien comprendre qu'ils sont très 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 contents. Je l'ai parcouru en entier, la conclusion m'a laissé assez songeuse. Pour eux c'est génial, vraiment, cette charte, elle va lutter à fond contre l'obésité, tout va bien se passer, on est très très contents, hein. On vous rappelle que Christine Kelly, elle est membre du conseil et présidente de la mission santé et développement durable, que c'est une femme extrêmement intéressante dans son parcours sur ce sujet et sur l'obésité. Et que elle a un certain nombre de sites internet et de blogs. Oui, oui, elle en a plusieurs, la dame. Et que je vous laisse aller voir. C'est très, très intéressant, son discours. Et donc, elle était accompagnée de Michel Boyon, le président du CSA, pour en mettre ce fameux rapport, le sourire aux lèvres, puisque tout va bien. Alors, ils ont d'ailleurs tout plein de nouvelles propositions à faire, où il n'y a que du conditionnel, hein, il y en a 9 des propositions. Alors, par exemple, le site Manger Bouger, il faudrait qu'il soit mieux développé à l'attention des enfants. Et devenir une référence en matière d'équilibre alimentaire. Ils pensent que, par exemple, le secteur audiovisuel pourrait s'impliquer davantage lors de la semaine du goût. On ne voit pas pourquoi, mais c'est aussi intéressant. Ils espèrent que les chaînes et les télévisions vont mieux mettre en avant l'agriculture et le terroir pour lutter contre l'obésité. Ils seront des acteurs de la chaîne alimentaire importants, hein, c'est noté comme ça. Et puis surtout, ils espèrent que, ça c'est le point 6, c'est le point que je préfère, que certaines chaînes pourraient mettre leurs programmes à disposition de l'éducation nationale.
Ah, ça va être du bonheur.
Puisqu'il faut savoir que dans cette charte de l'année dernière, de 2009, les chaînes de télévision sont appelées à faire des petits spots. Il y en avait un qui s'appelait, alors attendez que je vous retrouve, Trop la pêche. Par exemple, c'était des petits programmes, ça, qui étaient faits par l'Association nationale des industries alimentaires. Déjà, c'est pas un syndicat corpo, hein. Si, si, c'en est bien. Ça s'appelle l'ANIA. C'est assez célèbre pour savoir de quel côté ils sont. Ils sont certainement pas celui du consommateur qui veut manger sain. Donc, c'est quand même assez inquiétant si on en est à demander à ce que ça soit des chaînes, en particulier comme TF1 ou M6, c'est-à-dire des chaînes privées, qui mettent des programmes à disposition de l'éducation nationale.
C'était des chaînes privées, pas publiques.
Non, non, certaines chaînes. C'est intéressant. C'est ça, ils délirent des fois. Et puis elle nous rappelle que c'est bien parce qu'ils ont tapé sur les doigts quand même de certaines publicités. Ou par exemple, on voyait quand même des gens qui mangeaient pas très bien. Vous savez, la publicité, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré, en fait. On se rend pas compte. Mais par exemple, pour une pub pour une console de jeux vidéo, alors il y avait un plan où on voyait une assiette avec des toasts. Et ben ça, c'était pas bien. Il a fallu refaire la pub parce que c'était les toasts comme ça. Ça se mange. Enfin, ça lutte pas contre l'obésité. Un autre pour un éditeur de téléphonie. Alors on voyait un homme consommant de manière passive et excessive de la pizza devant la télé. Ben ça, c'est pareil, ça doit plus exister. Vous voyez, c'est donc à chaque fois, si vous voulez, il faut dans la pub ne plus avoir ces arrière-plans où on voit des gens manger de la pizza, boire du soda, comme si c'était l'important finalement dans cette lutte contre l'obésité. Et c'est bien là où cette association se sont énervées dès la remise du rapport, hein, parce qu'il faut quand même pas non plus déconner. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Eux, ils demandent à ce que les spots, pardon, qui sont passés sur les chaînes, qu'elles soient l'initiative des chaînes ou des syndicats corporatistes de l'agroalimentaire, elles soient vraiment analysées, parce qu'ils pensent que la plupart de ces spots n'ont en fait aucun impact réel et ne sont pas du tout scientifiques dans leur contenu. Ils s'en prennent effectivement à Ferrero et à Coca-Cola, qui sont quand même respectivement 4e et 10e annonceurs, hein, dans la grande consommation, ce qui est quand même assez important, hein. Ferrero, je ne sais pas si ça vous arrive de regarder les trucs de pub, mais c'est assez énorme, vous en prenez plein la figure avec leurs produits. Donc eux, ils estiment qu'il y a toujours un matraquage assez important de ces sociétés, et que finalement la charte, c'est un échec extrêmement important, et que tout ça, ça fait que cacher une certaine réalité, d'autant plus qu'il y a quand même des députés, pour terminer sur la question, qui essayaient une nouvelle méthode que personnellement m'a laissé sceptique. C'est deux députés du Nouveau Centre qui ont voulu faire interdire les fast-foods à proximité des établissements scolaires. Ça a été repoussé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était une idée, hein, puisqu'ils sont passés en fait sur une étude assez récente menée aux États-Unis qui montre que la présence des fast-food dans un rayon de 150 mètres d'un établissement scolaire augmente de 5% le taux d'obésité parmi les élèves. C'est certain que lorsque vous avez, mais c'est aussi que vous avez la consommation qui est juste à côté, vous y allez plus facilement. Jusque c'est un principe d'éducation. Quand on vous explique enfant que manger du McDo à la sortie des cours c'est pas terrible, et ben évidemment vous ne le faites pas. Donc c'est bon, je pense qu'on peut quand même se féliciter que ce genre de choses soit repoussé parce que on n'a pas besoin d'encadrement de lois pour lutter contre l'obésité et surtout lutter contre l'industrie agroalimentaire parce que le vrai problème. Il est là, c'est cette industrie qui nous fait bouffer n'importe quoi, comme tu le disais, bientôt on bouffera du saumon avec Atieux. Mais ça, comme vous verrez jamais le saumon en entier, vous ne saurez pas qu'il avait Atieux.
Deux petits mots sur le nucléaire, puisque depuis 2-3 ans, on a un retour en force des industries nucléaires qui font pression sur les députés, qui sont arrivés à faire passer une idée assez incroyable, c'est que le nucléaire aidait à lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est un énorme mensonge, vous le savez tous. D'abord, le nucléaire rejette du CO2, beaucoup dans l'extraction du minerai, beaucoup dans le transport du minerai, et peu sur la production d'électricité. Mais sur la chaîne globale, c'est pas bon du tout pour l'environnement. Personne ne sait quoi faire des déchets. Vous connaissez tout l'argumentaire. Mais les parlements terre et les parlements se laissent convaincre. On a la Finlande. Aujourd'hui, c'est les parlementaires finlandais qui ont autorisé la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires, avec comme excuse que ça va lutter contre le changement climatique. C'est quand même fort, hein, tout ça. Donc bien sûr ça a fait réagir les défenseurs de l'environnement, notamment Greenpeace qui a fait des manifs devant le Parlement. Les Verts élus de ce Parlement finlandais ont voté contre, par contre tous les autres, hein, gauche et droite, ont naturellement voté pour. C'est un peu comme la France, à la gauche et à la droite elle est nucléophile en Finlande. Pourtant ils ont un projet négatif en ce moment puisqu'ils construisent le nouvel EPR qui coûte une fortune, qui fonctionne pas bien, enfin qui fonctionne pas du tout encore, hein, il est en construction, mais dont le chantier est une espèce de catastrophe ambulante. Mais non, ils ont décidé de continuer plutôt que de développer les énergies renouvelables, ils se mettent sur le nucléaire. Et surtout, le mensonge va très loin, puisqu'ils disent que ça va augmenter la croissance du PIB et augmenter la création d'emplois. Or, on sait, par exemple, que développer les énergies renouvelables crée 5 fois plus d'emplois du nucléaire, qui est une énergie qui coûte très cher pour le matériel, alors que les énergies renouvelables coûtent le même prix, mais mis dans de l'emploi, puisque c'est de l'emploi avant tout, le matériel ne coûtant pas très cher. Donc voilà, c'est un beau mensonge. Et il y a le même en Suède. Alors la Suède, c'est encore pire. On rappelle qu'en 1981, il y a eu un référendum et les Suédois ont voté, donc le peuple suédois a voté par référendum, la sortie progressive du nucléaire. Ils avaient à l'époque 12 réacteurs, ils en ont 10 aujourd'hui, qui sont en fin d'activité. Et là, hop, retour des nucléophiles qui font pression sur le Parlement. Et le Parlement a voté il y a 15 jours, le 17 juin très exactement, un projet de loi qui annule l'interdiction de construire un nouveau réacteur nucléaire et qui annule le référendum. C'est drôle quand même, parce que le référendum, qui est un truc un peu démocratique, on fait voter le peuple, il est annulé par un truc non démocratique. Il aurait fallu à la rigueur refaire un référendum, donc par quelque chose de moins démocratique, qui est un parlement, qui est quand même nettement moins démocratique, puisque nettement moins direct, en tout cas dans la démocratie, que le référendum. Donc voilà, et surtout que c'est passé à 174 voix contre 172. Donc vous imaginez, c'est pas passé loin. Enfin voilà, c'est quand même triste de voir le développement du nucléaire, alors que personne sait quoi faire des déchets. Personne ne sait gérer la sécurité des centrales nucléaires. Personne n'est à l'abri d'un accident, d'un attentat, de choses comme ça. Mais non, on continue jusqu'au prochain Tchernobyl, que l'on ne souhaite pas, mais qui arrivera sûrement. Bah, c'est la fin.
Ouais.
On fait un petit agenda.
Moi, j'avais quelques livres à recommander à nos amis. Ou
ah
ce
bah
soir,
ouais,
ça
vas-y,
changeait un petit
livres,
peu. Alors le premier, je tiens à remercier Isabelle qui m'a fait découvrir ce très chouette bouquin. Ça s'appelle Taxi, c'est de Khaled Al-Khamisi. C'est un Égyptien. Il est né au Caire en 62, il est producteur, réalisateur et journaliste, donc c'est plutôt quelqu'un qui est membre de l'élite égyptienne, qui dans Taxi, à travers 58 petites nouvelles, nous raconte à travers des conversations avec des chauffeurs de taxi, finalement la vie du Caire, Et puis la vie des Égyptiens, alors tu nous parlais tout à l'heure de l'Égypte des pyramides, évidemment là c'est pas du tout le cas, hein. C'est un regard très très différent. Alors parfois il dit que c'est inventé, parfois c'est des vraies discussions qu'il a eues, et chacune de ces petites conversations porte sur un aspect assez particulier. Alors c'est la vie sociale, la vie économique et évidemment la vie politique en Égypte. En particulier toute la corruption et puis les élections, hein, puisque c'est des conversations qui ont été écrites sous le règne du président Moubarak, qui sollicitait à ce moment-là son cinquième mandat. Donc c'est souvent assez caustique, plutôt croustillant, puisqu'on y voit des chauffeurs qui font face à la corruption, je vous le disais, à la pauvreté aussi de la population, à un capitalisme effréné, à la violence des forces de l'ordre, ou à la bêtise de l'administration, comme on fait des queues, une queue pendant énorme pour obtenir un papier. Donc voilà, c'est très intéressant parce que finalement on y a une autre saveur de cette vie, en particulier de cette vie au Caire. On sent que Khaled Al-Ramissi aime beaucoup sa ville que tout ça ne le cesse de le rendre un petit peu stupéfait, à la fois face aux réactions des chauffeurs de taxi et puis de la réalité de son pays et de cette certaine corruption. Et puis l'autre livre qui nous parle aussi de corruption dont j'avais envie de vous parler, ça s'appelle À la soupe. Et là, c'est un auteur coréen, Lee Kun Sam, qui est en fait, À la soupe est en fait une pièce de théâtre. Ah, je vous entends déjà. Du théâtre, oulala, oulala. Alors, vous emballez pas, c'est du théâtre contemporain, ça se lit tout seul. Alors, je l'ai pas dit, mais Taxi, c'est chez Actes Sud, hein, c'est un livre qui est sorti en août 2009. Et À la soupe, vous trouverez ça dans la collection Scène coréenne chez Imago, qui s'est beaucoup, beaucoup spécialisé dans les ouvrages asiatiques et beaucoup dans les ouvrages coréens. Et donc on va suivre un personnage cynique, arriviste, qui va aller contre la morale ordinaire, contre les traditions coréennes, pour monter en grade dans son entreprise. Hein, l'auteur veut nous raconter un petit peu comment aujourd'hui, dans une entreprise, les gens montent dans la hiérarchie progressivement, comment finalement on devient des petits requins prêts à tout écraser autour de soi pour arriver à réussir. Donc c'est là, évidemment, on nous raconte la victoire du mensonge et de la manipulation, de la corruption, du carriérisme. C'est un tableau qui est assez corrosif quand même sur l'évolution de la société sud-coréenne actuellement. Et puis un dernier livre, beaucoup plus rigolé, mais beaucoup plus rigolo et beaucoup plus léger, Sacré Jésus, c'est une BD de Tronchet qui est parue chez Delcourt, alors c'est pas tout à fait récent, mais ça m'a fait bien rigoler. Vous y trouverez un Jésus à poil, hein, les parties génitales pendouillant dans ce petit personnage, un Jésus un peu bébête, pas toujours doué, se faisant avoir par Judas, hein, bien évidemment. C'est assez drôle, l'auteur nous explique qu'il faut pas rejeter son livre, ce serait quand même dommage de rejeter une thèse audacieuse et documentée, hein, ouais. Puisqu'on y apprend comment il transforme un peu tout, hein, l'eau en vin, on y apprend même sa jeunesse un petit peu avec papa et maman, hein, Marie et Joseph. Voilà une petite BD très simple à lire devant un ventilateur.
Voilà. Et ça nous rend anticlérical
Moi, ça m'a fait bien marrer. Comme je suis plutôt anticlérical et que je crois pas bien en Dieu, ouais, forcément, il faut avoir second degré, si vous croyez.
Donc, s'il y a des chrétiens, on vous les conseille pas.
Non. Si, moi je vous le conseille, ça peut vous faire rire. Certains d'entre vous, je suis sûr, ont beaucoup d'humour.
T'es sûr?
Je suis sûr.
Bon, et ben voilà, je crois que tout a une fin. On va faire un petit agenda. Pas grand chose dans l'agenda. T'as des choses, toi ?
Non, je crois que tu voulais nous parler de la pierre bleue.
Avant. Avant, on va commencer par la pierre bleue. La pierre bleue, c'est un festival qui a lieu dans les monts du Lyonnais depuis 1999, presque tous les ans, qui a eu des formes différentes. Là, c'est une forme sur deux jours. Ça a lieu dans la maison de Noémie, sur le mont Potu, et c'est dans la ville de Brulioles. Donc, c'est à 40 km de Lyon, hein, c'est pas très loin, trois quarts d'heure d'ici, quoi. Dans les monts du Lyonnais, la ferme, c'est une ferme, elle domine une vallée, c'est magnifique. En plus, ils annoncent du beau temps ce week-end, donc c'est l'occasion.
Vous aurez toujours moins chaud qu'ici.
Et vous aurez beaucoup moins chaud. Il faut penser à amener un pull, parce que des fois, il fait même froid. Donc voilà le programme. Alors, vendredi, donc il y a deux jours de concert, ça coûte 14 euros par soirée, enfin, ou 10 euros. pour les tarifs réduits, 20 euros pour les deux jours si vous voulez voir les deux jours, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Donc la première soirée, vous avez d'abord Mike Garmet qui va venir chanter tout seul, ensuite vous avez un repas, il faut payer en plus, ça coûte 6 euros, ensuite vous avez le quatuor Apax qui vient jouer une pièce de Haydn et de Mozart, donc plutôt du classique. Ensuite vous avez Daddy et Charlie, donc des slameurs, des chansonniers, des humoristes qui ont joué pas mal sur les pentes de la Croix-Rousse, et puis en fin de soirée Noémie Lamour and Tétanos Sester qui reprend de la musique française. Donc c'est une soirée très variée, il y a un peu de chansons, un peu de classique, un peu d'humour, un peu de chansons décalées, et on bouffe, c'est pas mal. Samedi, alors ça commence à 18h30 par les fameuses balades musicales. Alors si vous en avez jamais fait et que vous êtes ouvert, ça vaut vraiment le coup. On se balade dans la montagne et on découvre des gens qui jouent. Voilà, c'est très sympathique, c'est très poétique et très théâtral. Donc c'est à 18h30, c'est autour du texte La mastication des morts de Patrick Carman. À 20h on mange, 6 euros aussi pour manger des produits locaux, une grande tablée. Ça va être sympa. À 21h, Gêne 01, ça s'appelle. C'est une pièce de théâtre jouée par la compagnie La Chaîne Hurlante. On y parle de gêne, de l'Italie et de plein d'autres choses. À 22h, quelques courts-métrages de l'incontournable Mike Garmier. Et à 22h30, c'est pour danser. Il y a le Balabistan, donc on reprend des morceaux de musique trad, du folk. Et puis voilà, on danse au son du tambourin, de l'accordéon, de la guitare et de la batterie, puisque c'est tout ça. Donc voilà, le festival La Nuit de la Pierre Bleue, c'est à Brouliole ce week-end, vendredi soir et samedi soir. Et puis sinon, un peu plus loin, ceux qui sont qui soutiennent les déboulonneurs et qui ont envie de rencontrer les déboulonneurs, c'est ceux qui luttent contre l'affichage géant publicitaire, qui ont fait pas mal de barbouillages, ils ont fait ça le week-end dernier je crois, ou il y a 15 jours. Donc le collectif des déboulonneurs invite tous les sympathisants et sympathisantes, c'est féminisé je le dis, à un pique-nique pour échanger des idées, pour discuter, donc faut amener à boire, à manger, voire partager. C'est mercredi prochain, on sera le 7 juillet, c'est à 18h, à partir de 18h, au Jardin des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse, cours du Général Giraud en face de Diderot. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et c'est tout. Tout de suite, la bande à Spartacus, enfin dans 3 minutes. Ils arrivent, ils sont là, ils sont forts, ils sont beaux.
À bientôt, à la semaine prochaine.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Le Kenny Info de Radio Kenny.